RMC.
PLM et tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, bah, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Le Super Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh mon Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Dupro, toujours dans l'after jusqu'à minuit, comme tous les lundis, 23h. C'est parti pour nos drôles de dames, avec en plus une semaine Ligue des Champions, qui va nous régaler avec les quarts de finale. Allez, nous sommes en Espagne avec Fred Hermel. Salut Fred.
Hola chicos.
En Angleterre avec Philippe Auclair. Salut Philippe.
Philippe,
en Allemagne avec David Lorto qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Et pour l'Italie, Simone Rovera est avec nous. Salut Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Vous avez vu un bon week-end dans vos championnats respectifs?
Ah ouais,
oui, pas mal, oui, pas mal.
Intéressant.
Ah ben, ouais. Ben moi, j'ai pas vu en Serie A, mais Tottenham Chelsea très bien. Bon, évidemment, Fred a eu un magnifique.
Séville Barça.
Séville Barça, voilà. Donc,
en Angleterre, il n'y a pas eu que
puis
des
le Bayern Dortmund, bon, bah, c'était une raclée.
Arsenal Stoke.
Ouais, voilà, merci. Ouais. Putain, je me le suis coltiné, celui-là.
Mais oui, c'est pour ça que je pensais à toi, petit Pierre. Je t'ai entendu. Oh. Et je me dis,
c'est quoi, tu dis
Arsenal Stoke.
Arsenal Stoke. Ah, Arsenal Stoke, c'était une.
Ah oui.
Oui.
C'était pour toi, ça, Pierre?
C'est pas un match dont on va beaucoup parler.
Non, vaut mieux pas. Oui, passons à autre chose.
T'as fait un truc à la direction de SFR Sport?
Non, non, mais il faut bien les faire, ces matchs-là.
C'est vrai, très bien, voilà.
On se dévoue.
Premier avis tranché du soir, celui de Philippe Auclair.
Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également?
Et là, on y va sur Chelsea. Le révolutionnaire Philippe Auclair veut prendre la parole.
Ah, écoute, le révolutionnaire, j'irai pas jusque-là.
Ah, faut tout changer, quoi.
Je veux pas couper de tête, je veux pas monter l'échafaud
à Stamford
Bridge,
lui,
mais.
C'est pas un sauvage, hein.
Mais en Angleterre, tu sais, on a coupé les têtes de quelques souverains, d'un de nos souverains, entre autres, hein, donc on l'a fait avant Louis XVI. Non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'après le match qu'on a vu ce week-end, mais au-delà du match qu'on a vu ce week-end, il est devenu clair, je pense, qu'en Angleterre, le modèle de Chelsea, le modèle qui avait été mis en place avec l'arrivée de Roman Abramovich en 2003, ne fonctionne plus. Et que on en voit les limites, on voit les limites d'une politique où on fait tourner les managers les uns après les autres, où en fait on les vampirise pendant une ou deux saisons et après on les laisse tomber pour passer à autre chose. Et quand on compare ça avec les clubs qui marchent vraiment bien en Angleterre, et je mets Manchester United un petit peu à part à cause de la puissance financière dans Manchester United, mais si on regarde Liverpool, si on regarde Manchester City, si on regarde Tottenham, on voit des clubs qui ont mis en place des stratégies à long terme, avec des entraîneurs à qui on a donné les pleins pouvoirs, je dirais, presque au niveau du recrutement.
Attends, arrête-toi là-dessus, explique-moi, parce que moi j'ai un petit peu de mal à comprendre, je t'avoue. Quel serait alors, c'est quoi quand tu dis le modèle Chelsea par rapport aux autres, c'est quoi le rapport à l'entraîneur? Je comprends pas en fait.
Le rapport à l'entraîneur, c'est le fait que l'entraîneur est un simple employé qui n'a pas de place dans la mise en place du projet de jeu, de la stratégie à long terme. Et c'est ce qui a été le cas avec à Chelsea, absolument.
Et même Mourinho, quand il était là,
Mourinho est arrivé. Il est arrivé en tant que vainqueur de la Ligue des Champions avec Porto. Il est parti en qualité de. D'abord, Mourinho n'est pas un constructeur, on le sait. C'est pas un homme de projet de club. C'est un homme de projet sur une équipe sur 3 ans ou 4 ans. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais pour ce qui est, ce que je veux dire par là, c'est
3-4 ans encore, t'es large.
Ouais, non, mais je parle à l'époque où José arrive à Chelsea la première fois. Hein.
Ah oui.
Il a quand même ses deux titres de champion dans ces deux premières années, donc c'est pas n'importe quoi. Non, je parle plutôt quand tu compares le modèle Chelsea au modèle des autres clubs anglais qui fonctionnent, tu vois que le modèle de Chelsea ne fonctionne plus quant à lui. Et que c'est d'ailleurs, les dirigeants de Chelsea en sont parfaitement conscients, et c'est une des raisons pour lesquelles on parle beaucoup pour succéder à Antonio Conte, puisque bon, tout le monde sait maintenant, ça fait des mois qu'on en parle, qu'Antonio Conte va partir, que l'une des figures dont on parle le plus est celle de Thomas Tuchel. Je sais qu'on en parle au PSG, je sais qu'on en a parlé ailleurs, mais il y a une raison très claire pour ça, c'est que Tuchel est de ces entraîneurs qui peuvent proposer un projet à moyen ou long terme, de la même façon que Pep Guardiola l'a fait à Manchester City, que Jurgen Klopp le fait à Liverpool, et que Mauricio Pochettino le fait à Tottenham. Et le modèle, je dirais, oligarque, tu fais venir un entraîneur, tu le payes très cher, il gagne un titre, tu le vires, t'en fais venir un autre, etc., ça a vécu. Et j'ai l'impression que le match de ce week-end, d'une certaine manière, était une espèce d'illustration de la façon dont ce modèle n'a plus lieu d'être aujourd'hui, que le football a évolué.
Mais dis-moi,
anglais en tout cas.
Philippe, dans ce week-end, que Conte n'y soit plus, qu'il veuille partir, ok. Mais est-ce que c'est le modèle qui a transformé Conte en ce qu'il est cette année? Est-ce que c'est pas aussi lui qui effectivement est entré, j'en sais rien moi, dans une sorte d'opposition au club, de je m'en foutisme, de je sais que je vais partir. Moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est l'attitude de Conte. Ouais. Moi, j'en parlais l'autre fois pour Emery dans sa conf d'après PSG Monaco.
Tu parles sur le bord du terrain ou...
Oui. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui est très marquant sur les. Je trouve, je le répète sans arrêt, mais on accorde trop peu d'importance au body language et au comportement des gens et à ce qu'ils dégagent, à ce qu'ils sont. Aujourd'hui, c'est capital. Dans une époque comme la nôtre de communication, Conte, entre le Conte qu'on avait connu à la Juve et puis en équipe d'Italie l'année dernière. Je parle même de l'aspect physique. Ouais. Et j'ai vu la même transformation dans la vie de Mourinho. Comment il était lui physiquement, mais ça peut aller de la coupe de cheveux aux fringues qu'il porte, à son attitude, à ce qu'il dégage. Conte hier m'a semblé être épuisé, un homme fatigué, lassé, qui doit vivre une autre expérience.
Mais si tu veux, moi j'essaie de me placer au-delà de ce qui se passe avec Conte. Chelsea ne veut plus d'entraîneur à la Conte.
Voilà. Le lien que je voulais voir avec toi, c'est si ce que moi j'ai vu de Conte. Et la conséquence de la politique du club. Est-ce que c'est la politique du club qui a transformé Conte comme ça? C'est ça que je ne sais pas.
Alors écoute, sans doute le conflit qu'il y a eu pendant l'été, le départ de Michael Emenalo qui a certainement pas arrangé les choses. Le fait que tu as eu un entraîneur, bon, il est ce qu'il est, hein, Antonio Conte, on connaît, c'est pas quelqu'un nécessairement de très facile.
Ah non, bien sûr.
Les problèmes de recrutement qu'il y a eu, il a un côté buté, il a un côté je vais vous montrer ce que je peux faire, je vais vous montrer ce que je sais faire, y compris pour bouder. C'est un gros boudeur.
Ouais, ça se voit.
Et il y a des moments, en effet, sur le bord. Moi, je suis comme toi. J'ai vu la différence au niveau du langage corporel sur le bord de touche. Tu sais, quand on est
même les fringues, ça
oui,
se voit.
Mais tout, absolument. Tout. Tu as raison. Tout. On est à 10 mètres. Moi, je suis assis derrière son épouse au match de Chelsea. On est à 10 mètres d'Antonio. On le voit. Et c'est pas la même personne. C'est clair. Et c'est clair. Il est là, il est pas là. Il y a des moments où il se réveille. Il y a des matchs où il nous montre encore ce dont il est capable. Parce que, encore une fois, la double confrontation contre Barcelone, on a vu un excellent Antonio Conte. Franchement, il était bien. Il était là. La première mi-temps, même contre Tottenham, il y a rien à dire. Ils sont bien présents et il s'est préparé son équipe. Par contre, est-ce que ses joueurs sont encore complètement derrière lui? Je ne le pense pas. Est-ce que lui se voit déjà ailleurs? Je le crois également. Chelsea veut aller ailleurs et dans une autre direction? Ce qui est l'essence de mon avis tranché, c'est que, on a vu tellement, si tu veux, une stat. Depuis le dernier titre de Tottenham en 2008, on a vu 11 entraîneurs se succéder sur le banc de Chelsea. Je dis bien 11.
Depuis
le dernier titre de Tottenham. C'est pour ça que je pense à ça, parce que c'était Chelsea-Tottenham ce week-end. 2008. Depuis 2008, on a vu 11 entraîneurs sur le banc de Chelsea. C'est complètement ridicule. Et ça peut marcher dans un certain football, mais pas dans le football de la Première Ligue aujourd'hui, où, encore une fois, les entraîneurs qui fonctionnent, qui marchent vraiment, sont les entraîneurs qui sont là sur le long terme. Je sais que ça peut paraître curieux, alors qu'on a parlé entre nous, si tu veux, de la longévité décroissante, en quelque sorte, des managers à l'anglaise. Mais là, tu vois Klopp, il est parti pour un bout de temps. Tu vois Pochettino, Tottenham va tout faire pour le retenir. Tu vois Guardiola, du côté de Manchester City, ils sont là à vouloir le conserver et peut-être qu'ils vont le convaincre. Chelsea, c'est un petit peu le mauvais élève, le cancre de ce top 5.
Alors, vas-y Simonet, après on accueille Quentin au 32.
Alors, déjà sur Conte, je l'avais dit la saison dernière, les premières fractures, c'était avant qu'il commence sa série extraordinaire. Je pense que c'était un match face à Southampton, il y a une trêve internationale et il y a presque déjà une fracture avec Abramovich. Là, il met sa défense à 3 et donc c'est un peu comme l'épisode, c'était Ancelotti à Reims. Tu comprends encore que tu dois tout gagner, tu es tout là, tu viens de commencer une expérience magnifique et déjà il cherche de te faire un peu la peau, de te chercher un autre entraîneur. Là, c'est cassé. La chose à dire, à mon avis, la différence sur laquelle je suis un peu partagé sur ton avis tranché, et c'est que Liverpool et Tottenham, je ne les vois pas comme des clubs qui ont l'exigence aujourd'hui de gagner. Et très simple, Chelsea, depuis 2004, l'arrivée de Mourinho, il a gagné, je sais pas combien de titres, mais je pense 5 titres de champion, la Champions League. Et il y a un besoin de continuer à gagner qui oblige presque le club
différente.
À continuer à changer les entraîneurs.
C'est
Pochettino n'a rien gagné et Tottenham, Liverpool, je sais pas c'est combien d'années qu'ils gagnent pas un titre de Premier League, une vingtaine peut-être.
Depuis 1990, c'est pas compliqué.
Ça change l'idée de l'entraîneur, surtout du propriétaire vers l'entraîneur.
Tu as raison, Simone. Je ne t'interromps pas, je te relance. Je ne t'interromps pas, Simone, je te relance. Ce que je te dirais juste, c'est que on a une nouvelle dynamique qui s'est mise en place. Quand tu as maintenant un Pep Guardiola en première ligue. Quand tu as un Jurgen Klopp en première ligue, ça change tout. Le paysage a changé. Et je suis d'accord avec toi, ça a produit des résultats extraordinaires, ce qu'a fait Abramovich. Mais extraordinaire au niveau des résultats. Par contre, le contexte est complètement différent. Économiquement, financièrement, c'est plus les rois du gaz ou du pétrole. C'est moins qu'on puisse dire.
J'aime beaucoup Mathias. Je ne t'interromps pas, je te relance.
Excuse-moi, pardon. Et je me tais. Et je me tais.
Diplomatique, même, voire même élégant.
Non, c'est magnifique. Ah ouais. Quentin nous rejoint au 32-16. Salut, Quentin.
Je vais relancer tout le monde.
Bonsoir à tous. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir. Bon, qu'est-ce que tu penses de l'avis de Philippe sur ton club?
Je partage totalement, comme d'habitude, la plupart du temps. C'est très difficile d'être un supporter de Chelsea en ce moment. Les temps sont durs. c'est un club qui a toujours eu ces dernières années des résultats en dents de scie et aussi beaucoup de changements d'entraîneurs liés à ça. Et c'est vrai que j'espère peut-être l'année prochaine le voir et puis vous dire voilà, le nouvel entraîneur est génial, ça se passe super. Et puis l'année d'après, ce sera encore le même discours. C'est un peu compliqué et aujourd'hui c'est vrai que je pense qu'il faut plutôt dans un contexte comme celui-ci et dans un championnat comme celui-ci avoir des entraîneurs sur le long terme qui peuvent très bien avoir une année sans, qui peuvent construire des choses mais qui seraient plus décisionnaires. Je pense pas compter forcément son mot à dire sur l'ensemble des éléments, on le sait très bien, c'est assez compliqué là-haut à Chelsea et c'est vrai que là on arrive au pied du mur, on se dit voilà, Conte va partir. Et pour autant, moi, en début, lorsque Conte a signé à Chelsea, j'étais partant pour me dire, voilà, encore une fois, j'espère que ça va être sur le long terme, c'est génial, c'est un entraîneur qui a la grinta, qui a tout ce qu'il faut, qui a l'état d'esprit, et puis, là, on arrive à un moment où, avec une défaite ce week-end encore contre Tottenham, à domicile, ça devient difficile, très simplement, de se dire qu'on va le garder, et alors qu'aujourd'hui, ça reste un entraîneur qui, pour moi, est exceptionnel et qui mériterait encore de faire des années à Chelsea, mais je pense que de lui-même, je pense qu'il a plus envie et en effet, je pense que là-haut, ça doit pas fonctionner très très correctement et il y a beaucoup de pression et c'est un peu difficile pour lui.
Très bien. Bon, on a fait le tour sur Chelsea, on est d'accord, Quentin. Merci en tout cas.
De toute façon, d'accord, pas d'accord. Ce qui est sûr, c'est que ça va changer.
Ça oui.
Et il va falloir qu'il se trouve donc, comme tu dis, ça va être la grande interrogation et c'est la même dans pas mal de clubs. C'est ce qui passionne les gens depuis maintenant quelques années, le mercato des coachs. Et là donc toi tu dis ils sont sur le tuche alors.
Ils sont sur le tuche et ils cherchent un entraîneur qui puisse rester en place un peu de temps. Et puis il y a un gros problème, une grosse interrogation pour Chelsea, c'est un club.
Mais je ne sais pas en quoi le tuche donne le sentiment qu'il va rester plus longtemps à Dortmund.
C'est plus pour avoir un entraîneur qui a un projet de jeu qui soit qui l'impose en quelque sorte à son club. Tu as une situation à Chelsea qui est complètement aberrante. Ils ont une académie qui est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure d'Europe. Il y a qu'à voir les titres qu'ils ont gagnés dans les compétitions nationales et internationales. Ils ont 38 joueurs en prêt aujourd'hui. 38. Et donc, tu as un club qui a été incapable d'utiliser ses ressources. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour mettre en place cette académie. Ils ont besoin de quelqu'un qui pense un petit peu également dans cette voie-là. Et tu te dis, quand tu vois par exemple ce que fait même Guardiola à Manchester City, qui a dépensé également beaucoup d'argent, Guardiola, il a quand même intégré quelques-uns des jeunes joueurs dans son effectif. On n'en a pas beaucoup parlé. Non, il l'a fait. Zinchenko en est un, Phil Foden en est un autre, et il y en a d'autres qui vont suivre. Je te dis pas que ça soit nécessairement facile.
C'est pas transcendant, quoi. C'est pas les noms qu'on va retenir de l'année, tu vois.
C'est pas des noms qu'on va retenir de l'année, mais c'est des joueurs qui ont montré beaucoup de belles choses. Et si jamais tu peux en avoir deux, Daniel, sur une génération dans une équipe qui joue ce type de football et à ce niveau-là, je pense que tu serais vraiment très content. C'est moins qu'on puisse dire. À Chelsea, par contre, on en a un, c'est Thomas Christiansen, et puis qui est pas vraiment fantastique en ce moment.
Dans l'actu de ton week-end, Philippe, bon, les quatre premiers ont gagné.
Ouais.
City, ça va le faire dans le derby, le titre, c'est ça?
Je sais pas. On y sera, mais en effet.
Mais quand le derby, là?
C'est samedi à 18h30 heure française.
Samedi qui vient, 18h.
Entre les deux manches.
SFR Sport
contre Liverpool. Absolument.
Et avec une victoire, ils sont pas assurés d'être champions.
On n'avait pas dit que ce genre de match au niveau des dates, ça devait être annoncé 15 jours avant. Tu vois, t'as un peu merdé là.
Bah, une semaine avant.
On avait dit les gros matchs.
T'as déjà pris un rendez-vous pour samedi.
Le Juve Naples, ça fait 3 semaines qu'on est dessus avec Simone. Ça a été annoncé 3 semaines.
Qu'est-ce que t'as de si important dans ton agenda que t'aurais mis samedi?
Rien.
Donc c'est bon.
Samedi prochain en Angleterre, on a le derby de Liverpool. Qui est à 13h30, Everton-Liverpool, qui est suivi par le derby de Manchester à 18h30. Oui, je pense qu'on devrait en effet pouvoir...
Entre deux, t'as Watford-Burnley quand même.
Bon, donc, et Watford-Burnley, que va faire Pierre d'ailleurs, au passage.
Ah oui, t'as
fait
alors.
Non, mais Burnley, c'est très sympa à voir.
Ah oui, c'est chouette. Absolument. Et Watford, c'est pas mal non plus.
D'ailleurs.
C'est pas mal.
En un mot, là, sur les résultats du haut de tableau, Philippe, qu'est-ce qu'il faut retenir?
Écoute, nouveau but de Mohamed Salah, 37e but, c'est assez extraordinaire, mais bon, on en parle tellement.
Ça lui fera oublier sa défaite? Il n'est arrivé que deuxième de l'élection en Égypte. Vous avez vu ça?
Ah oui, c'est vrai, oui, tu as raison. Et on reparlera de l'élection pour le footballeur de l'année, mais bon, ça, oui, c'est toujours entre Salah et
Salah. Ça vous botte en Angleterre, ce truc, quand même.
Ah, mais oui, c'est parce que c'est. C'est chouette.
Vas-y, Philippe, donc.
Sinon, Manchester City, avant le match contre Liverpool, la première mi-temps contre Everton, c'était pas loin du sublime. À qui n'a pas vu les buts, je conseille de les regarder. Ils sont disponibles, je pense.
Ils sont en ce moment sur BFM Sport.
Ils sont sur BFM Sport
en ce moment
et ils sont remarquables. Signaler Manchester United qui fait 45 premières minutes franchement très très convaincantes contre Swansea, avec le genre d'équipe qu'on aurait voulu voir contre Séville, qu'on n'a pas vu contre Séville, mais ça, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça.
Séville, c'est pas Swansea.
Oui, mais non, mais l'équipe, non, mais Fred, ça, Fred, je sais bien et on est bien d'accord là-dessus. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire et tu sais très bien, c'est le fait que l'équipe qu'on a vue,
il y a les deux ailes,
qui était entreprenante, c'était surtout Mourinho, c'était la composition de l'équipe. On a vu une très belle équipe de Manchester United, très entreprenante, aussi entreprenante qu'elle avait été négative et décevante contre Séville, avec 100 buts pour Romelu Lukaku en première ligue à l'âge de 24 ans. Je continue de dire, de penser et de défendre ce joueur qui pour moi progresse de semaine en semaine, de mois en mois, et va être un super buteur. 24 ans, rappelons-le. Et puis, ça ne me fait pas nécessairement beaucoup de peine, mais Alan Pardew a été limogé aujourd'hui par West Brom.
Mais comment c'est possible?
T'as
fait le calcul de ses clubs et du nombre de fois où il s'est fait virer?
Alors écoute, oui. En fait, il s'est fait virer
partout.
Franchement,
il a le record. Est-ce qu'il y a un entraîneur en Europe qui s'est fait virer plus souvent que lui? Écoute, et qui a eu autant de... Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait un jour un bon résultat, un bon truc?
Écoute, non, il a fait une très très bonne saison avec Newcastle, quand il termine cinquième.
Il y a un truc quand même.
Ouais. Oui, il y a un truc. Il avait eu également. Mais c'est un entraîneur, si tu veux, qui a il a des moments à West Ham. Il a eu une saison où c'était pas trop mal. Charlton, etc. Non, mais il est complètement nul. On est d'accord. Mais là, ça y est, il est viré. Et ça m'a causé beaucoup de peine.
Et il va retrouver encore un club, tu crois?
Alors, écoute, ça, c'est une question que j'ai posée.
Mais il est aimé dans les médias. Il n'y a pas de mec dans les émissions qui disent mais il est nul. Pourquoi on le reprend?
Il a beaucoup d'amis, il fait partie de ces entraîneurs qui savent à qui donner le numéro de portable.
Ah, d'accord.
Okay. C'est ce que je veux dire. En Espagne, on en a des comme ça aussi.
Ouais, mais je pense qu'on en a partout, Fred. Hein.
Ce que vous voulez me dire, c'est que il est unique, Pardew. Ils sont pas deux, Pardew.
C'était
compliqué là, hein. C'était compliqué. Hein.
Oui,
mais j'avais envie.
Daniel n'a pas compris. C'est impossible que moi j'ai compris, là t'as pas compris.
Merci Simone. Et puis, c'est vraiment accessible.
Et Jean-Louis, Jean-Louis, et juste pour terminer, on a beaucoup parlé de Chelsea, mais encore une fois, signalons combien ce Tottenham a changé, combien ce Tottenham est un Tottenham nouvelle manière, qui a réagi magnifiquement à son élimination de la Ligue des Champions, qui a montré de très très belles choses, franchement, dans un match qui était épatant à Stamford Bridge, avec une nouvelle fois Christian Eriksen, qui est un joueur bon qu'on ne peut pas ne pas adorer si on aime le football, un excellent Dele Alli qui marque un but à la Bergkamp.
Le contrôle est magnifique.
Et aussi un joueur, et ça c'est pour l'équipe de France,
Hugo Lloris.
Non.
Ah non.
Non, Hugo Lloris, non, en fait, on n'a pas le temps.
D'accord.
Mais c'est David
Lloris,
Sanchez.
Lloris, on a le temps de voir qu'il a complètement cagué sa sortie.
Mais là, on a le temps de plus rien, Philippe. Donc, faut nous dire.
Lloris, il est passé.
David Sanchez.
Il est dans une maison de bois.
L'arrière central de l'équipe de Colombie. Pour moi, fantastique. Et pour moi, il deviendra l'un des tout meilleurs défenseurs centraux, non pas d'Angleterre, mais d'Europe.
Dans une seconde, l'avis tranché de Fred Hermel qui va nous expliquer que Zidane n'est pas un coach français. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot.
Oui, ça fait marrer.
La conversation juste avant.
Ah ouais, parce que pendant les pubs, on parle pas de. Pendant les pubs, on parle pas de foot.
En tout cas, en tout cas.
On nous raconte comment tu te fais mener à la baguette chez toi. C'est tout ce que j'ai compris, moi. On est également avec nos drôles de dames, Simone Rovera, Philippe Auclair et Fred Hermel.
Je suis sûr que la discussion a beaucoup intéressé Philippe Auclair.
Oui, mais là, on n'a pas le temps. Franchement, on est un peu en retard. On va pas se le cacher. Donc, cette discussion très intéressante, on la gardera pour un autre soir. On y va pour l'Espagne.
On peut pas demander juste à Philippe Auclair s'il aime le chocolat au-dessus de 80%.
Et ben après, je t'envoie Fred.
Oui, je l'adore. Je l'adore.
Au-dessus de 80%.
Tu trouves pas trop mal? C'est 85.
Moi, j'ai beaucoup de mal au-dessus de 70.
Moi aussi. Alors écoute, je te donnerai les bonnes adresses.
Non, mais je te dis pas que j'ai pas les bonnes adresses. J'ai dit, j'ai beaucoup de mal avec.
Mais parce que tu sais pas apprécier le chocolat, Daniel. Toi, tu n'aimes que le sucre. C'est tout ce que je remarque.
Voilà. Je l'utilise en cuisine, par exemple.
Au-dessus de 70, j'ai beaucoup de mal.
Je l'utilise en cuisine.
Je me demande si je suis assez expert.
T'as un palais d'enfant encore, peut-être.
C'est possible. C'est un problème.
C'est une question de goût aussi, parfois, c'est tout.
Le goût, ça.
On peut faire un after spécial.
On peut l'apprivoiser,
le goût. Faut se préparer.
Voilà, c'est ça. Oui, on doit être éduqué.
Ah, c'est bien, ça. On peut apprivoiser le goût.
Il est quand même 25,
hein.
Moi, je dis ça. Je dis
bah,
rien,
moi, je suis d'accord. Mais
vas-y,
bon,
Fred, vas-y.
Voilà. On l'a fait le jingle?
Pardon.
Non?
Allez.
On y va, jingle, Fred Armel.
On est là! On est bien là!
Bah oui, on est bien là et on en a trois, donc.
C'est vrai.
Et tu veux nous parler du
Zidane? Oui, c'est vrai, semaine de Ligue des Champions égale semaine de crânerie extrême pour Fred Hermel.
Et on commence
crâneur.
En même temps, on peut que subir là.
Allez, et donc, première dans l'after, tu vas nous parler de Zidane.
Ouais, parce que j'en ai marre d'avoir toujours raison avec mes avis tranchés. Donc ce soir, je vais pas faire un avis tranché. Je vais faire un constat tranché. Bah, on est tous d'accord pour dire que l'affiche de ces quarts de finale, c'est quand même Juve Real, Real Juve. Hein.
Bah, on n'est pas d'accord du tout, mais ça, c'est pas grave.
on va avoir
c'est quoi pour toi, Philippe?
À ton avis,
Liverpool City?
Bah oui.
Ah oui. Ah bah ouais,
c'est le seul moyen.
Bah, c'est un sacré match. Non, mais c'est un sacré match aussi. Excuse-moi.
Bon, surtout allez. Que Liverpool a embêté City.
Fred, allons-y parce que Philippe ne t'a pas interrompu, il t'a relancé.
C'est pas une finale de Ligue des Champions.
Simone. Allez, vas-y Philippe. Fred, pardon.
Merci. Oui, je disais que j'en avais marre d'avoir raison dans mes avis, donc je vais faire un constat tranché. On a une super affiche demain et c'est un match que craint particulièrement Zinedine Zidane pour une raison très simple, c'est que Zidane a passé ses diplômes en France, ses diplômes d'entraîneur. C'est quelqu'un qui vit depuis bientôt 17 ans en Espagne, mais ce n'est ni un entraîneur français, ni un entraîneur espagnol. Zidane, je lui dis, c'est pas un avis, c'est un constat, est un entraîneur italien. J'ai souvent eu l'occasion d'en discuter avec lui.
C'est vrai.
C'est en Italie qu'il a appris le haut niveau en tant que joueur. C'est en Italie qu'il a vu comment on préparait une saison. D'ailleurs, il calque ses préparations de saison sur ce qu'il a vécu à la Juve, notamment avec un gros travail physique l'été pour être bien au printemps. C'est quelqu'un qui veut tout contrôler. C'est quelqu'un qui a l'obsession de l'organisation presque millimétrique de tout. Ça, il l'a appris en Italie. La compétitivité, il l'a apprise en Italie. Il a eu comme maître un Italien, Carlo Ancelotti, puisqu'il a été son adjoint au Real Madrid lors de la saison 2013-2014.
Et Marcello avant lui.
Et il a eu, mais en tant qu'entraîneur adjoint, c'était.
Oui, bien sûr.
C'était.
Non, mais il a été marqué par Lippi. Hein.
Bah, oui, par Lippi. Oui, mais il a été marqué par l'Italie en général, par la Juve. Et puis la seule véritable exigence qu'il a eue en tant qu'entraîneur du Real Madrid, c'est le recrutement d'un préparateur physique italien, en l'occurrence Antonio Pintus. Donc Zidane, lui, était pas ravi de tomber contre la Juve parce que ça lui fait, on va dire que ça lui fait peur, mais il est un peu inquiet de tomber contre un club italien. En plus, son autre club de cœur, puisque la Juve a compté énormément pour lui, c'est 5 ans de sa vie quand même, tomber contre un entraîneur italien, parce que lui, en tant qu'entraîneur italien, parce qu'il sait ce qu'il est, il connaît la compétitivité, il sait très bien que la Juve n'aura rien à voir avec l'équipe qui s'en est pris 4 en finale il y a moins d'un an. Donc voilà, Zidane, l'italien, est très concentré et je dirais même un peu inquiet de tomber contre un autre Italien demain soir à Turin.
Simone, on en parle souvent en Italie, de Zidane l'Italien.
Quand on parle des Zidane, on souligne, ça. Il y a eu plusieurs papiers, surtout dans mon journal Tutto Sport, sur l'école de Marcello Lippi avec Conte, avec Deschamps, avec Zidane, avec Paolo Sosa, avec d'autres entraîneurs qui ont une moyenne de succès, comme Vialli quand même, il a gagné avec Chelsea, Ravanelli, il a été entraîneur, même s'il n'a pas été de haut niveau, mais comment Lippi a été les maîtres d'une génération, de beaucoup de joueurs qui, sous lui, sans parler de ceux qui sont passés par la sélection, où tu as Oddo, Zambrotta, Gattuso, donc comment Lippi a formé une école d'entraîneurs italiens, oui, et comment Zidane, en tant qu'entraîneur...
Zidane, donc.
Zidane.
Mais laissez-le tranquille avec son accent.
A pris beaucoup de Lippi, plus que d'Ancelotti dans certaines choses. Après, Ancelotti était le dernier, donc la dernière empreinte, c'est oui, mais c'est la sienne. Mais c'est vrai qu'on parle... Quand on parle des Zidane, on parle un peu comme...
Zidane. On dit pas Ancelotto, nous.
Maintenant, Pierrot, on va le dire. On va dire Ancelotto. Ancelotto sportif. Non, on va le dire maintenant.
Bon,
mais oui. C'est vrai, Simone, que Zidane a été très, très marqué, OK, par l'IPI, mais par l'Italie en général, par le
Calcio. Oui, bien sûr.
Parce qu'à l'époque où il joue en Italie,
il a dit même aujourd'hui en conf de presse, en certains moments, si tu as bien écouté, et il dit je suis arrivé de la France.
Comment
et j'ai
ça,
découvert s'il
a bien écouté, c'est lui, c'est lui qui écrit les confs de Zidane.
Quand il l'écrit, peut-être, il n'a pas écouté parce qu'il s'est déjà arrivé.
Non, mais c'est vrai, et il parle encore très bien italien d'ailleurs, hein, parce qu'il y a plusieurs questions d'italien.
Oui.
Donc, mais il est ravi d'y retourner, quoi, même s'il a, je le dis, cette petite inquiétude. Et, mais dans la préparation de saison, c'est impressionnant. C'est-à-dire que lui, il a une conception très italienne de ce que doit être une saison. Et il a été vraiment très, très marqué, j'insiste, par ses 5 ans à la Juve. Et ce que tu voulais dire, en fait, c'est qu'il a dit, voilà, je partais de France, je quittais ma famille, nanana, je quittais mon pays, je suis arrivé en Italie, j'ai découvert un tout autre univers, mais aussi footballistique et aussi voilà. Et surtout footballistique.
Fred, donc on a 4 italiennes en quart de finale.
Avec les entraîneurs,
avec
oui.
Les entraîneurs.
Oui, c'est ça, t'as raison.
Ouais.
Fred, les autres espagnols, tu les vois comment cette semaine?
Alors, le Barça, bon, toujours pour continuer avec Simone, le Barça a fait un match.
Contre la Roma.
Contre la Roma, je pense que ça sera réglé dès mercredi soir parce que le Messi étant, bon, il avait quelques petits problèmes physiques, il a pas pu jouer des problèmes musculaires, il a pas pu jouer avec l'Argentine. Il est rentré. Enfin, un match à Séville, mais c'est hallucinant l'effet, qu'on voit sur la pelouse. Messi entre, les adversaires reculent de 20 mètres. Mais automatique, c'est-à-dire que c'est un truc, c'est comme par magie, quoi. Il n'a pas encore touché la balle, tout le monde recule de 20 mètres. Et donc, cette équipe du Barça a ramené un match nul in extremis avec un but extraordinaire de Séville, de Messi à Séville, un 2-2. Le Barça, en plus, Busquets, après 3 semaines d'arrêt, s'est entraîné hier, enfin ce matin, il va s'entraîner demain, le match, voilà, mercredi, il y aura tout le monde. Franchement, Simone, je sais pas ce que t'en penses, mais je vois pas comment la Roma ne pourrait pas être éliminée.
Oui, normalement,
dès mercredi, en fait, voilà.
Oui, ça risque d'être déjà plié au moment du tirage. Le seul espoir, c'est vraiment de trouver une Zeko. Et là, je te pose une question. Est-ce qu'il y a des attaquants avec un tel impact physique et avec un gabarit si grand comme Zeko à la Roma, qui sont souvent en Liga au quotidien dans les matchs contre le Barcelone, ou c'est plus un profil différent?
T'as Diego, bon, c'est vrai que les attaquants ici sont plutôt fins.
T'as que Diego Costa, c'est-à-dire
comme ça, de gros, comme ça.
J'ai regardé un peu parce que Zaza
ouais,
c'est
pas
comme ça.
Hein,
Moreno,
les attaquants,
c'est pas
ils
comme
sont,
ça.
Oui, c'est plutôt exactement. C'est technique. Comment tu disais, pardon?
Non, c'est lui Deibar.
Tu veux dire que ça peut leur poser des problèmes?
Ah oui, après oui, et puis après ouais, non, mais t'as Aduriz de l'Athletic Bilbao qui est pas très grand mais qui est très puissant. Oui, enfin, mais c'est vrai que c'est oui, mais
les
le
jeux de la Roma, c'est ballon pour Dzeko, ouais, c'est-à-dire
ouais,
est-ce
que
un gros
Zeko,
attaquant dans la surface peut poser
de ballons,
des problèmes au Barça qui n'est pas habitué? C'est la ma seule question.
Ouais, ça paraît compliqué.
Ouais, mais parce que quand tu vois les têtes piquées en ce moment, c'est vrai que alors tu dis Umtiti, il a pas été moins que l'équipe de France, sauf que Umtiti quand il a été piqué, ben
c'est pas pareil,
c'est pas pareil du tout quoi. Donc
et Fred, dis-moi, Séville contre le Bayern, tu dis c'est possible?
Bah écoute, pour eux leur saison elle est faite quoi. Séville, bon, ils sont d'ores et déjà assurés de jouer la Ligue Europa après avoir un changement d'entraîneur en décembre. Ils ont quand même éliminé Manchester United 8e, ça faisait 60 ans qu'ils n'étaient pas en quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, et dans la format Ligue des champions, ils n'avaient jamais atteint ce niveau-là, donc c'est tout bénef pour eux. Et sincèrement, s'ils font le match qu'ils ont fait contre le Barça avec un petit peu plus d'efficacité, et ça tombe bien parce que demain c'est pas Muriel qui devrait être titulaire mais un certain Ben Yedder, et ben pourquoi pas, en tout cas partir avec à Munich la semaine prochaine avec une chance de se qualifier. Voilà, je pense que le Séville, c'est quand tu vois par exemple ce que fait, et là aussi c'est encore un italien, ce que fait Vincenzo Montella, je veux dire le retour de Jesús Navas, qui est un joueur fabuleux, qui est quand même vers la fin de sa carrière. Depuis le début de la saison, c'était pas génial ce qu'il donnait à Séville. Là, il l'a transformé en latéral droit, et Jesús Navas, mais il est extraordinaire. Vous avez Ben Yedder maintenant qui marque ses buts, on le sait. Enzonzi qui est rayonnant au milieu de terrain, il a encore fait un match extraordinaire.
Il était bon dans le match là l'autre jour.
Ah bah oui, mais oui, il avait été très bon à Old Trafford. Là, il a fait un match très 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 très. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime chez lui, c'est la puissance alliée au calme. Il joue calme, il joue tranquille, même quand ça va très vite, même quand ça presse, voilà, c'est pas le type qui va vite lâcher le ballon pour s'en débarrasser, non, il s'en débarrasse jamais, et voilà, après, Clément Langlais, il fait une saison fabuleuse, Sergio Rico, il a parfois des bourdes, le gardien, sauf que il est de nouveau en confiance et c'est l'un des meilleurs gardiens d'Espagne, non, voilà, Séville, normalement, devrait être éliminé, oui. Mais je pense que Séville a les moyens, j'insiste, oui, de ne pas être éliminé demain soir, et puis d'aller à Munich, peut-être avec une petite histoire de qualification, mais quoi qu'il arrive, c'est déjà fait.
Voilà, ils n'ont rien à perdre.
La vie tranchée de Simonero Vera qui va faire écho.
Non, il faut y absolument parler parce que c'est important. Parce qu'il va être titulaire en Coupe du Monde, peut-être, c'est Lucas Hernandez. On a vu le tacle de l'année quand même en Espagne hier. Lucas Hernandez hier contre le Deportivo La Corogne. Maintenant, comme Philippe Luis est blessé, il va jouer tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. C'est important, en plus au poste de latéral gauche, bien entendu, c'est important dans l'optique de l'équipe de France. Lucas Hernandez a fait un retour, c'était calculé par les Espagnols, à 34 à l'heure. Il a fait un tacle.
Ah oui, l'action.
Un tacle, mais extraordinaire, sur l'attaquant du Deportivo. Il met, allez, 5 cm à côté, c'est pénalty expulsion, et pourtant c'est parfait. Alors qu'il vient de faire une course de 20 mètres à 34 à l'heure. À 34 km/h. Donc, attention, Lucas Hernandez, c'est pas un hasard si Deschamps l'a pris, et il sera peut-être beaucoup plus utile pendant le mondial qu'on peut croire. En tout cas, j'insiste, il va être prêt pour l'échéance parce qu'il joue tous les matchs.
Parfait, l'Italie dans un instant, la vie tranchée de Simonero Vera sur la Juve, pour faire écho à celui de Fred sur le Real, puisque donc il y a Real Juve en quart de Ligue des Champions cette semaine. A tout de suite.
RMC, le super football show. L'afterfoot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot et nos drôles de dames, Fred Hermel, Philippe Auclair, Simonero Vera et David Lorto nous rejoint. Salut David.
Allô Fred, salut messieurs, salut à tous.
L'Italie, jingle Rovera.
Comté avec Deschamps, avec Zidane.
On dit Pancelotto nous.
Ah, c'est déjà devenu un jingle.
Belle activité, bravo.
Super.
Et bien sûr.
Bravo Quentin.
Alors, tu ne veux pas nous parler de Zidane, mais donc de la Juve.
Zidane. Oui, bah malheureusement Zidane il est là dans ses rendez-vous. Parce que je veux parler de Cardiff, qui a été vraiment les mauvais souvenirs, les cauchemars. C'est ce que la deuxième mi-temps a laissé de ce match, quand la Juve est presque rentrée du vestiaire, elle s'est fait exploser par le Real Madrid. Je suis convaincu que demain, ça va être une histoire totalement différente. Bien sûr, c'est un quart de finale, c'est pas un final, mais la Juve a beaucoup appris de cette défaite, a beaucoup appris de ces chaos. Un passage important, l'a dit même aujourd'hui Massimiliano Allegri, la Juve ne sortira plus de match. C'est vrai qu'après le but de Casemiro, la Juve avait totalement craqué. Je vois un Juve qui est plus tranquille, plus sereine, plus mûr, qui raisonne plus. Et après, il y a une chose encore à dire. La saison dernière, dernier match de la saison, la Juve était arrivée fatigué, était arrivé aussi avec cette coupure qu'il y avait eu une semaine sans jouer en plus que le Real Madrid, qui avait eu un match en plus la saison du Real terminée une semaine plus tard, la Juve avait coupé, ils sont arrivés vraiment pas préparés physiquement. Aujourd'hui, c'est un moment de la saison où heureusement la Juve n'aura pas cette différence des préparations, au moins je vois un Juve vraiment au top physiquement parce que elle entraîne aussi de gagner des matchs, des qualifications comme à Tottenham, en certains moments de match, et même en deuxième mi-temps, parce qu'ils ont fait une préparation différente, ils ont travaillé d'une façon très différente. Et il y a une mentalité qui est... Ils sont plus sereins. Cardiff, et ils sentaient presque une obligation de gagner après la défaite face au Barcelone. Là, ils ont compris... Et même mal à niveau mental, parce qu'en Italie, il y a eu une campagne dangereuse qui, je pense, qui a fait du mal vers la Juve en disant la Juve n'est pas inférieure, même est supérieure au Real Madrid. Sur certaines choses, était peut-être vrai, sur certains joueurs de qualité qu'il y a à la Juve, même si l'effectif de Real Madrid est extraordinaire. Aujourd'hui, en arrivant comme outsider de ces rendez-vous, de cette qualification, la Juve ne va pas faire la même erreur qu'il a fait à Cardiff. Donc, je trouve que c'est une double confrontation qui risque d'être plus équilibrée de ce que le pronostic laisserait penser, laisserait dire, avec le Real donc favori. Pour donner quelques informations...
La dernière équipe qui a éliminé le Real en aller-retour, c'est la Juve.
C'est la Juve en 2015.
But de Morata.
But de Morata. Et, et l'effet qu'il y a... Le même scénario, match aller à Turin et match retour à Madrid, je pense que peut aider aussi, parce que la Juve est quand même souvent... presque toujours fait des extraordinaires résultats à domicile. Et je crois que la seule défaite dans l'histoire du Juventus Stadium, c'est en 2013, en quart de finale retour face au Bayern. C'est une stade où la Juve se sent bien à l'aise. C'est vrai que chaque équipe dans son stade, dans les maximums, est extraordinaire. Mais la Juve a vraiment créé quelque chose d'extraordinaire dans son nouveau stade. Et je pense que c'est un énorme avantage pour la Juve de jouer les premières à domicile et pas de, de recevoir les deuxièmes. Quelques petites infos qui sont importantes. On l'a déjà dit, Pjanic est suspendu, Benatia est suspendu. Allegri a fait comprendre qu'il sera... Il a dit une entre Marquise et Bettencourt à la place de Pjanic. Donc, il fait comprendre qu'un joueur 3 au milieu. Il n'y aura pas 4-2-3.
Marquise, il est dans quel état ?
Mental,
parce que ce sera le mec qui, au niveau de capacité à distribuer le jeu, ressemblerait le plus, sauf que ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu à un niveau que requiert la Ligue des Champions.
Il était titulaire la dernière fois, je pense qu'il a fait 90 minutes face à la Fiorentina, si je me trompe pas, mais c'est vraiment un match chaque deux mois. Ouais. Ça m'étonnerait. Bettencourt, c'est les joueurs qui rentrent samedi face au Milan. Et change la vitesse du jeu. Il est plus tranchant. Il, dans la récupération, il est décisif sur le but de l'avantage de la Juve. Donc, je suis presque sûr que ce soit Bettencourt. Donc, défense à 4. Et à la place de Benatia, ça devrait être Barzagli. C'est presque impossible de voir Allegri se passer. 37. Allegri s'est passé dans le défenseur avec
l'expérience. Barzagli en défense centrale sur un match comme ça. Ça passe encore. Ça
a priori, c'est mieux que latéral en finale, quoi.
Voilà, c'est mieux que latéral ou en but face à Son.
Il avait, c'est bien ça, il avait été latéral.
Il avait su faire face à Son. Et à la fin, quand il est passé central, il a été décisif sur Harry Kane, donc face à Tottenham, donc avec les ballons sauvés sur la ligne. Je crois que c'est pas une hasard, celui de Allegri. Après, un joueur comme Barzagli, il s'était dit je suis prêt, je peux jouer. Tu l'écoutes plutôt que faire confiance à Rugani.
Pierre, comment tu vois, toi, cette opposition-là, Juve-Real?
Ben moi je suis surpris de des pronostics.
Oui, de Simonet.
Simonet qui dit que le Real est favori de ce match, c'est vraiment les pronostics fiables ou c'est toi qui...
J'étais dit que
le Real soit tout le temps favori jusqu'à preuve du contraire. Contre la Juve, contre la Juve là maintenant,
il y a un respect.
Moi, je suis désolé, c'est du 50-50.
Ils sont double tenants, comment veux-tu que...
Oui, mais double tenants, c'est super, sauf que là aujourd'hui, actuellement, pour moi c'est du 50-50. La Juve est très très costaud.
Peut-être, si c'est 50-50, quand même, le Real est double tenant, il a gagné 4 ans à Cardiff, donc ça reste quand même... Même, je t'ai dit, l'immédiat avant Cardiff avait mis des choses. Alors, je raconte une petite anecdote. Il y a une des plus grands éditorialistes italiens qui écrit sur le Corriere della Sera qui, deux jours avant la finale de Cardiff, il avait dit dans la Juve d'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo serait remplaçant. Il y avait autant de confiance dans les systèmes et dans les schémas de jeu de la Juve.
Quand il avait dit ça ?
Avant la finale.
Avant la finale. Ouais, il n'aurait pas sa place.
Là, quand même.
Pour expliquer.
Qui avait dit ça ?
Un grand éditorialiste. Mais vous n'écoutez pas ce que dit Simonet.
Un journaliste, quoi.
Oui.
Un journaliste.
Mais pour te dire.
Les journalistes disent
sous le Corriere della Sera, le plus important quotidien italien, qui écrit ça pour te dire quelle ambiance il y avait en Italie.
L'ambiance générale était.
La finale,
ce que dit Simonet, peu importe que le gars se trompe ou pas, c'est un ressenti. De l'atmosphère à ce moment-là.
Justement,
moment, ça montre la confiance en la Juve.
Oui, oui. Buffon a donné interview à Marca, il dit qu'ils étaient trop confiants.
Ou alors c'est une connerie et ça ne traduisait pas du tout l'atmosphère du vestiaire si, et de la Juve.
Non, mais l'atmosphère en Italie derrière
en fait,
la Juve.
On n'écoute pas dans cette émission.
C'est quelque chose.
En fait,
ça,
alors,
oui, joueurs, on l'a entendu, Fred. On a entendu.
Non, non, personne ne s'écoute parce que tu t'es dit la Juve va gagner, la Juve est plus fort, la Juve a la chance de réécrire l'histoire, la Juve va, la Juve va, la Juve va. Moi, je suis d'accord que la presse peut être un peu des soutiennes. À un certain moment, faire des unes, dire on va les faire, on est tout derrière la Juve. Mais là, vraiment, il y avait une ambiance qui a été, à mon avis, a fini pour plomber la Juve. Ouais. Il avait donné une idée d'une Juve presque toute puissante face au Real Madrid. Ouais. Et là, la claque a fait encore plus mal. Il y a eu du temps, il a fallu vraiment du temps, tout l'été, pour repartir. Et Allegri, cet été, avait dit à un certain moment, j'ai même pensé d'arrêter parce que ça fait vraiment tellement mal cette défaite. Qu'aujourd'hui, j'ai dit heureusement, elle n'est plus dans la tête.
S'il y a un truc à retenir du week-end en Italie,
que l'Inter a retrouvé Icardi et Perisic mercredi à 18h30, il y a le derby de Milan, qui pourrait mettre un terme à la course Ligue des Champions pour Milan et relancer l'Inter à la troisième place.
Très bien, ben voilà.
Alors, simplement par rapport à ce que dit Simone, parce que j'en viens de donner mon avis là-dessus, il a totalement raison. Et personne au Real Madrid ne saurait faire la finale. Personne.
Et ben,
c'est-à-dire
bien.
Que pour eux, ça n'a aucun rapport.
C'est une autre histoire.
Donc le Real Madrid va pas tomber dans ce piège là, il y a zéro problème.
Très bien.
Les bookmakers, Jean-Louis, donnent au Real 4 fois plus de chances de se qualifier pour les demi.
C'est fou.
Je viens de vérifier tout.
C'est fou.
Le
Real est bien
favori.
Voilà.
Normal qu'il soit
favori.
4 fois plus de chances que pour le Real.
Oui, on est à 2, ça te paraît
logique.
2 contre 5 contre 2 contre 1.
Que les mecs parient de cette façon, ça me paraît logique. Oui.
On file en Allemagne, Jiggle Lorto. C'est parti.
Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA.
Et Lorto.
Et au Luxembourg.
Tu veux nous parler.
La mode revient, hein. Ça arrive.
Tu veux nous
la
parler.
La mode, c'est ce qui se démode et c'est ce qui se remode.
Exactement. Tu veux nous parler d'un joueur latin, c'est rare, venant de toi, David. Tu veux nous parler de James Rodriguez.
Bien sûr. Je vais en dire un mot à l'instant, mais simplement vous sensibiliser, messieurs, puisque c'est ce qui s'est passé les dernières heures et c'est l'actu chaude et brûlante. Ça va bouger à Dortmund beaucoup et très fort, donc il faudra en dire un mot. Je veux bien d'abord commencer effectivement par cet avis tranché sur James Rodriguez, parce que c'est une scène du match de ce week-end, de ce terrible match 6-0 FC Bayern Borussia Dortmund qui m'a proposé en fait cet avis tranché. Je regardais tranquillement le match en deuxième période, il y avait 5-0 à la mi-temps pour le Bayern, donc le sort était scellé et le Bayern dominait tranquillement, maîtrisait, faisait tourner le ballon, et puis d'un coup on voit James courir un peu comme un dératé, revenir vers sa surface pour défendre comme vous me direz n'importe quel joueur bien éduqué et professionnel doit faire. Mais ça m'a quand même surpris parce que c'est un joueur merveilleux dans les phases offensives, qui est en train de réellement de prendre sa pleine mesure, et je vais en dire un mot tout de suite, dans le domaine offensif, et de devenir un joueur, à mon avis, et c'est la vie tranchée du soir, essentiel dans cette fin de saison au moment où il va falloir gagner les gros matchs. Mais c'est ça qui m'a interpellé, c'est cette attitude sinon nouvelle pour lui, quand même un peu surprenante, dans le bon sens du terme, un James vraiment venant défendre, venant faire les efforts alors que son équipe mène 5-0 et que Dortmund a eu quoi comme occasion dans cette deuxième période. Il y a eu un tir sur le poteau de Götze et c'est à peu près tout. Et ça pour dire que James Rodriguez a été mis en confiance par Jupp Heynckes, remis aussi un peu sur pied. Mais moi, ce que je voudrais dire aussi ce soir, c'est que c'est Carlo Ancelotti qui a fait un superbe cadeau au FC Bayern, et il faut rendre quand même à César ce qui est à César, en faisant venir James pour 2 années en prêt, avec option d'achat de 42 millions d'euros en 2019, c'est bien Ancelotti qui a fait venir le joueur. Alors celui-ci n'était pas prêt, n'était pas acclimaté dans les premiers temps et dans les premiers mois de la saison, mais aujourd'hui, avec le travail aussi de manager un peu hors pair de Jupp Heynckes, avec le travail physique qu'il a effectué, avec l'attitude désormais psychologique et mentale qui est la sienne, et bien le Colombien, à mon avis, comme il l'a été ce week-end, où il a été le meilleur joueur sur le terrain sans contestation, passeur et buteur, eh bien peut en cette fin de saison, et dès demain soir peut-être, contre Séville, être un joueur plus, un joueur qui va apporter qui va prendre le costume de chef d'orchestre, alors que ce rôle-là est plutôt en début de saison destiné à un Thiago Alcantara, qui a été un peu absent pour des raisons aussi physiques ces dernières semaines. Et James a bien pris la mesure du poste, et désormais, c'est ce qu'il a prouvé en tout cas ce week-end, et c'est ce qu'il va devoir prouver maintenant, a pris la mesure du costume.
Alors qu'est-ce qui se passe à Dortmund ?
Alors Dortmund, ça va énormément bouger. Déjà, le chantier de l'entraîneur qui va occasionner aussi des chaises musicales en Allemagne, on sait que c'est un chantier à double ouverture, puisqu'il y a le Bayern qui va devoir changer d'entraîneur cet été, et Dortmund aussi, parce que Peter Stöger, ça se confirme, l'Autrichien, alors qu'il n'a perdu qu'une fois en Bundesliga avec Dortmund, et c'était contre le Bayern ce week-end, et plus que menacé, il est déjà parti en fait. Hein, il va être remplacé cet été, ça se confirme dans les discussions et en interne, c'est déjà scellé. Peter Stöger va devoir céder sa place. On avait Peter Bosch en début de saison, l'ancien
Ajax. On s'est pas trop attaché quand même à lui. Hein. Faut pas se le cacher, hein, c'est pas... Voilà.
Oui. Bah,
non, mais tout va mieux avec lui, puis il prend une énorme tarte contre le Bayern, oui. Et c'est fini, quoi.
Alors, oui, c'est pas parti, le remplace
les,
après.
Les projets à long terme, parfois, ne durent pas quelques semaines.
Alors là, il y a quand même de gros bouleversements à Dortmund, parce que si le président Watzke a prolongé, et si le directeur sportif Michael Zorc ont prolongé tous les deux, en revanche, ça bouge à côté de ces messieurs-là, puisque Matthias Sammer, tiens, Ballon d'Or 96, joueur et ancien entraîneur de cette équipe, champion d'ailleurs avec Dortmund, revient comme conseiller externe. Alors ça, je serais curieux de voir un peu ce que ça va donner.
Ah, c'est conseiller externe, on a connu ça à Lyon, oui. Gérard Rouillet, c'est en fait, oui. Il est conseil, mais sur le parking.
Mais il l'est toujours.
Il rentre pas dans le club, en fait.
Oui, précisément.
Il donne des conseils, mais voilà.
Ça permettra peut-être à Sammer aussi d'avoir des avis tranchés, un peu comme nous, comme il a toujours été, comme il a toujours eu. Mais bon, ça c'est un premier changement. Et deuxième changement, donc l'entraîneur, il est question de Lucien Favre. Il a une clause de départ, on sait, avec Nice. Donc c'est le favori actuellement pour prendre la succession de Peter Stöger. Mais ça va bouger.
Depuis le temps qu'on en parle, non?
Oui, et puis c'est la shortlist. Elle concerne aussi le Bayern, parce qu'il en avait
été. Est-ce qu'à force de parler d'un truc, ça se passe?
Ah, je crois que c'est un sujet.
Je suis pas sûr, hein.
La méthode Coué.
Non, je suis pas convaincu.
Mais est-ce que c'est parce qu'on parle du truc qui se passe, ou est-ce que c'est parce qu'il va se passer qu'on en parle? C'est ça la question, en fait, je pense.
En tout cas, à Dortmund, on cherche les coupables. Et je pense que les torts sont partagés, parce que les joueurs ont leurs torts. L'entraîneur peut-être aussi, mais il a constaté, comme Peter Bosch avant lui, qu'on pouvait pas faire de miracle avec l'effectif actuel. Tiens. Et puis peut-être que la direction a des responsabilités aussi, puisque c'est elle, on s'en rappelle quand même, qui a précipité la fracture avec Thomas Tuchel. On a déjà eu l'occasion d'en parler avec cet épisode de l'attentat sur l'autocar. Et la fracture avec un entraîneur, Tuchel, qui désormais, et vous l'avez constaté tous, peut-être Philippe en Angleterre avec Arsenal, il est convoité, avec Chelsea, enfin peu importe, mais il est convoité par beaucoup de clubs. Oui.
Mais juste attends, que... t'avais commencé une phrase sur la shortlist du Bayern.
Oui, parce que c'est pareil, ça commence à se réduire aussi les possibilités du FC Bayern. Rummenigge, le président, a annoncé que avant la fin du mois, on allait connaître le futur entraîneur du Bayern. Ça parle beaucoup de Niko Kovac, germanophone de l'Eintracht Francfort, mais au Bayern, on aime beaucoup les contrefeux. Donc je suis pas convaincu que ce soit le choix final. Ça, ça sera à vérifier. Il y a Ralf Hasenhüttl aussi qui pourrait venir de Leipzig, mais il est question que Hasenhüttl prolonge à Leipzig. Donc le mystère reste entier pour l'instant pour l'entraîneur du Bayern pour la saison prochaine.
David, pour compléter ce que tu disais sur James Rodriguez, aujourd'hui, oui. Marca la signature de José Félix Diaz, qui est l'un des journalistes les mieux informés. L'option d'achat devrait être exercée par le Bayern pour deux raisons. C'est que Zidane va rester au Real, et que Zidane n'aime pas James, et que James n'aime pas Zidane, et que que le Real va le lâcher sans aucun problème.
Ok, bon, on va rester sur cette info. Et on en reste là ce soir, messieurs. On vous retrouve toute la semaine, bien sûr, avec les quarts de finale aller de Ligue des Champions. Merci Daniel, merci Pierre, merci Simonet, David, ciao. Philippe.
Merci à vous.
Salut à tous.
Merci à tous. Demain, Juve Real donc. Séville Bayern également. Les matchs en intégralité dans le Super Football Show avant match à partir de 20h. Débrief dans l'after jusqu'à minuit, bien sûr, avec toi Daniel. Avec Jérôme Roten, avec Gilbert Bribois. Soirée Ligue des Champions toute la semaine. Ciao.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.